Dans mon entourage, ben, y a beaucoup de pédagogie à faire. Parfois, tu vois, j'ai des copines qui ben, ne connaissaient pas le rôle de la glaire cervicale, qui ne savent pas qu'une phase lutéale, ça dure tant de temps, que c'est relativement fixe chez une même femme. Et c'est hyper intéressant. Et pour les hommes aussi, alors bon, ils ne sont pas toujours super enclins à parler glaire cervicale et compagnie, mais non, c'est un travail qui est précieux, des connaissances qu'on n'a pas eu à l'école, soit dont on a plus connaissance là. Et puis, tu vois, ma mère, par exemple, elle me dit tout le temps « Oh là là, mais si j'avais su, mais personne ne m'a jamais dit ça, mais c'est dingue !»
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! La fertilité est souvent définie de manière très simple, c'est l'aptitude à procréer. Mais ça veut dire quoi au juste? Derrière cette définition simpliste, il faut aller voir un peu au-delà pour comprendre que la fertilité ne se limite pas seulement à la possible conception d'un être humain, c'est avant tout cette capacité du corps à donner la vie, le reflet d'un équilibre subtil entre nos hormones, notre nutrition, notre environnement et notre bien-être. La fertilité incarne aussi notre vitalité, notre énergie, l'harmonie de notre propre organisme et la compatibilité avec un autre. Être fertile, c'est être riche de tout ça pour offrir un terrain propice à la vie. Dans cet épisode, j'invite les personnes en tout genre à explorer la fertilité concrètement. On va parler des mécanismes, des facteurs qui l'influencent et comment pouvoir contribuer à une meilleure fertilité au-delà de son patrimoine génétique. Avec moi, Alice Monet.
Bonjour Noémie.
Tu es naturopathe spécialisée en fertilité et équilibre hormonal. Tu suis surtout les femmes, mais aussi les couples en parcours PMA avec une approche fonctionnelle, micronutrition, phytothérapie. Tu mets en place des pratiques pour améliorer l'équilibre et la fertilité de tes consultantes. Moi, je suis ton compte Insta, alice.naturo, et j'ai scrollé un petit peu pour voir quand est-ce que tu parles de toi. Et je suis remontée jusqu'en 2015 avec tes photos de voyage, de week-end, d'où ma première question. C'est quoi ta meilleure sortie le dimanche?
C'est vrai que je parle pas beaucoup de moi. Je pourrais te répondre un truc super instagrammable, genre café céramique le dimanche. Mais en vrai, moi, tout ce que j'aime, c'est une bonne balade en forêt. C'est voilà.
Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es spécialisée dans ce sujet-là? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est venu naturellement au fur et à mesure de tes consultations?
Ben, je te dirais que j'ai toujours voulu accompagner les femmes. C'était vraiment mon souhait. Donc, j'ai fait une formation très généraliste de naturopathie. Puis, petit à petit, je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme avec des formations plus poussées en hormonologie, en démarche fonctionnelle. Mais vraiment, ce qui a été le déclencheur pour me lancer à accompagner toutes ces femmes, bah, ça a été la perte de mon petit bébé en 2020. Voilà, j'ai perdu une petite fille 13 jours après sa naissance. Et bah, j'ai eu envie d'aller chercher de la lumière là où il n'y en avait vraiment plus du tout. Et j'espère qu'aujourd'hui, bah, ma fille, elle est fière de sa maman, de toutes ces, tous ces petits bébés qui sont nés aussi. Voilà.
Donc, c'était plutôt pour chercher des réponses ou...
C'est ça, pour essayer de, tu vois, de transcender cet événement hyper douloureux bah, au service de tous les couples qui souffrent aussi. C'était ça, la volonté.
Au tout début, moi, j'ai donné ma propre définition de la fertilité. J'espère que ça résonne aussi un peu avec ce que toi, tu as l'habitude de communiquer. En tout cas, pour commencer, j'aimerais que tu puisses comparer les termes qui sont en lien avec la fertilité, que ce soit la fertilité, l'hypofertilité, l'infertilité et la stérilité, parce que je pense que il y a moyen d'avoir des confusions.
La fertilité, ça va être la capacité d'un couple à concevoir un bébé. L'hypofertilité, c'est quand le couple est fertile, mais qu'il y a des problématiques, ça peut prendre plus de temps. L'infertilité, cette fois-ci, c'est quand le couple a des difficultés à concevoir après 12 à 24 mois d'essai. Une aide médicale, là, peut être nécessaire pour qu'on ait son petit bébé. Et puis, la stérilité, c'est pas du tout pareil, c'est l'incapacité totale à concevoir un enfant, donc même avec une aide médicale. Par exemple, tu vois, une femme qui est née sans utérus est considérée comme stérile. même si aujourd'hui on fait des greffes d'utérus, mais c'est quand même très marginal. Donc le distinguo, il va être très important, surtout entre infertilité et stérilité. L'infertilité est réversible, la stérilité est définitive.
Si un couple désire avoir un enfant, en fait, la première étape passe souvent par l'arrêt de la contraception. Est-ce qu'on peut rapidement faire un petit tour des contraceptions pour voir ce qui se passe dans le corps une fois qu'on arrête et à quel point on retrouve rapidement une fertilité normale ?
Pour que ce soit plus clair, on va distinguer les méthodes de contraception mécanique. Donc là-dedans, tu vas avoir le préservatif qu'on connaît bien. Là, à la minute où tu retires le préservatif, ta fertilité est immédiatement retrouvée. Également, dans les contraceptions dites mécaniques, tu as le stérilet au cuivre, à ne pas confondre avec le stérilet hormonal. Là, tu as une action mécanique par inflammation de la muqueuse utérine qui va devenir impropre à ce que l'embryon s'accroche. Donc là, généralement, un stérilet au cuivre, tu le retires, et bien ta fertilité revient normalement assez rapidement. Le cycle d'après, tu es censé être fertile. Oui, il n'y a pas forcément... Oui, ça va vite, parce que tu n'as pas un impact hormonal profond comme on peut avoir avec les autres méthodes de contraception. Donc, dans les contraceptions hormonales, on a la pilule qu'on connaît bien, la pilule combinée, donc œstro-progestative, qu'on réserve à des femmes de moins de 35 ans. Donc la pilule, quand tu l'arrêtes, eh bien, ta fertilité met plus ou moins de temps à revenir. Et ça dépend en fait de ton équilibre hormonal de base. Par exemple, une femme tu vois, qui a un SOPK, qui avait des problématiques à la base, quand elle arrête sa pilule après l'avoir prise X années, ça peut mettre du temps, l'ovulation peut mettre du temps à revenir. Ça peut être quelques semaines, mais ça peut aussi être plus long, 6 mois par exemple. Parce que tu as des choses qui ont été masquées pendant ce temps-là. Et puis l'équilibre hormonal de la femme varie au long de sa vie. Et tu vois, quelqu'un qui a pris la pilule 15 ans, bah en fait, elle n'est plus dans la même situation qu'elle l'était. Donc peut-être qu'en arrêtant cette pilule, bah, tu as des déséquilibres qui apparaissent. Voilà, ça va vraiment dépendre des gens. Bah, attention, il y en a aussi des femmes qui arrêtent leur pilule et puis qui réovulent 14 jours après le cycle d'arrêt. Donc c'est tout à fait possible. Et puis enfin, un dernier mode de contraception hormonale, ça va être tout ce qui est progestatif pur. Donc dedans, tu as l'implant, le stérilet hormonal et la pilule quand il n'y a que un progestatif à l'intérieur. Et donc ça, c'est un mode d'action encore un petit peu différent de la pilule dont on a parlé, puisque c'est des contraceptifs qui agissent en épaississant la glaire cervicale, okay. Ce qui va empêcher le passage des spermatozoïdes. Ouais. Voilà, et parce qu'en fait, tu vois, la glaire cervicale, c'est comme, faut imaginer que c'est comme un filet avec des mailles à densité variable. Plus t'es proche de l'ovulation, plus les mailles sont larges pour que le spermatozoïde passe. Et puis ensuite, elle est censée te protéger d'une nouvelle grossesse et puis d'agents pathogènes si t'as un embryon qui est en train de s'installer. Donc elle redevient très dense. Et c'est ça l'action des progestatifs. Tu peux avoir d'autres actions aussi, ça peut affiner la muqueuse de l'utérus, ça peut bloquer l'ovulation, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Là, quand tu arrêtes, généralement, tu retrouves ta fertilité assez rapidement. On a une glaire cervicale qui revient assez rapidement à la normale.
Après cette étape, il y a la question de la fréquence et du timing des rapports des couples. Il y a cet adage qui dirait que on devrait avoir des rapports tous les deux jours, mais maintenant, on sait que ça fatigue tout le monde. On a récemment sorti un podcast sur la symptothermie. À ce moment-là, on parlait de fenêtres de sécurité pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on peut utiliser cette même fenêtre pour dire que c'est la fenêtre de fertilité ?
Exactement, c'est la même. La fenêtre de sécurité pour les couples qui pratiquent la symptothermie comme méthode de contraception, la même que la fenêtre de fertilité pour les couples qui veulent un bébé. Donc, si on rappelle très brièvement, parce que voilà, l'épisode, il parle de tout ça, mais un spermatozoïde, ça va vivre 5-6 jours dans les cryptes du col de l'utérus. Attention, hein, 5-6 jours, c'est pour les plus costauds. Hein. Et puis, tu as l'ovocyte, donc, qui est la plus grosse cellule grasse du corps humain. Qui dit cellule grasse dit une cellule qui peut facilement s'oxyder. Un ovocyte, c'est fragile, il peut survivre 12-24 heures. Mais ce qui veut dire que, imaginons que tu ovules à 6 heures du mat, et que tu retrouves ton partenaire sous la couette à 22 heures, eh ben, tu vois, peut-être que ton ovocyte, il est déjà plus là. Ça peut être trop tard. Quand bien même t'aurais ovulé, c'était le jour de ton ovulation. C'est pour ça que les rapports, il faut les mettre en amont de l'ovulation. Il faut les mettre dès qu'on voit cette glaire cervicale qui monte en qualité. C'est comme ça qu'on arrive à choper le bon timing. Bon, alors évidemment, si on ne voit pas de glaire cervicale, il faut bosser. Est-ce qu'on a assez d'œstrogènes? Est-ce qu'on boit assez, etc. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Tu vois, on peut faire des tests d'ovulation. Donc là, c'est des tests qui vont détecter cette hormone qui impulse l'expulsion de l'ovocyte. Donc des tests de LH mais qui correspondront pas à toutes les femmes, parce que tu en as de base qui ont une LH élevée, donc tu as un test d'ovulation qui est positif tout le mois et ça t'avance pas plus. Donc c'est pas utile pour toutes. Et puis on me demande souvent aussi, mais si je fais ma courbe de température ? Alors c'est une super idée, sauf que la courbe de température, elle sera jamais prédictive de l'ovulation. Elle te sert à valider que son ovulation a eu lieu. Mais elle va pas te dire, tiens, attention, t'ovules dans 2 jours. En fait, en phase folliculaire, donc quand ton ovocyte est en train de maturer, qui est toujours dans son follicule, eh ben, t'as une température en fait, qui va varier, fluctuer, et sur laquelle t'auras pas d'indice qui va se dessiner quand t'as ton jour d'ovulation.
Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accompagnement pour que les femmes puissent apprendre à connaître leur corps et leur cycle, mais ça reste tellement tabou. C'est assez fou, même autour de moi, combien il y a de personnes qui ont passé par là, n'ont pas forcément les connaissances à transmettre. Et c'est encore plus fou hein, du côté masculin, c'est plus flagrant. Je suis pas étonnée, en fait, si beaucoup de couples essaient juste les basiques et puis se sentent perdus ou même fatalistes après un an d'essai. Toi qui es spécialiste en fertilité et que tu dois mentionner, en fait, ton travail assez régulièrement, est-ce que tout de suite, tu dois faire de l'éducation auprès de ton entourage ?
Oui, complètement. Moi, si tu veux, j'ai plus aucune barrière par rapport à tout ça. Moi, c'est mon quotidien, tu vois, donc... c'est vrai que dans mon entourage, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Parfois, tu vois, j'ai des copines qui ne connaissaient pas le rôle de la glaire cervicale, qui savent pas qu'une phase lutéale, ça dure tant de temps, que c'est relativement fixe chez une même femme. Et c'est hyper intéressant. Et pour les hommes aussi, alors ils sont pas toujours super enclins à parler glaire cervicale et compagnie, mais non, c'est un travail qui est précieux, des connaissances qu'on n'a pas eu à l'école, dont on n'a plus connaissance là. Et puis, tu vois, ma mère, par exemple, elle me dit tout le temps « Oh là là, mais si j'avais su, mais personne ne m'a jamais dit ça, mais c'est dingue !»
Ouais, non, moi, je suis aussi contente d'apprendre tout ça, même avant de me poser la question. Et forcément, là, en faisant un podcast sur la fertilité, je ne pouvais pas ne pas passer à côté de l'infertilité. Et on peut peut-être en parler un peu plus longuement. Je ne pouvais pas faire un podcast sur la fertilité sans rester longuement à parler d'infertilité. Selon Fertility Europe, environ un couple sur 6 est concerné par l'infertilité en Europe et dans le monde, ces chiffres ne font qu'augmenter depuis les 20 dernières années, voire même les 30 dernières années. Avant qu'on parle des facteurs, j'aimerais qu'on parle un peu de l'impact psychologique et émotionnel sur les couples qui ont des difficultés à concevoir. Alors, ce serait quoi les mots que tu entends le plus souvent dans tes consultations ?
Évidemment, c'est très, très impactant sur le plan émotionnel. Et puis, ça va être très lié à la durée aussi du parcours, aux étapes qui sont franchies. Mais généralement, ce qui revient le plus, ça va être beaucoup de culpabilité, notamment de la part des femmes, avec cette idée de « mon corps n'est pas apte à porter la grossesse ». L'homme, il peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Tu as aussi beaucoup d'impuissance face à des parcours où tu es dépossédé de ton timing. Par exemple, dès que tu passes en PMA, tu subis un petit peu tous ces examens, toutes ces stimulations hormonales. Parfois, on ne t'explique pas non plus très bien ce que c'est. Tu as un discours très fataliste aussi, parfois des médecins qui vont te dire de toute façon, vous avez 40 ans, vos ovocytes sont de mauvaise qualité, point. Alors qu'on sait quand même qu'on a des tas de leviers d'action. Tu as beaucoup d'incompréhension aussi. Parfois, tu vois, tu as des couples, tous les examens sont normaux, pourtant ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas. Ça, c'est souvent quand on n'a pas assez investigué. C'est très rare, tu vois, pour avoir accompagné des centaines de couples, c'est rarissime que tu n'aies aucune explication. Aucun fil à tirer, Mais parfois, on a juste des bilans, somme toute, assez basiques. Et puis, on ne sait pas, on vous envoie en PMA. Et ça, c'est dommage, parce qu'il faut creuser. Et ça aide les couples aussi. Avoir des réponses, c'est vraiment un premier pas pour eux de reprendre un peu de contrôle sur cette situation. Puis, tu vois, tu as des couples qui font beaucoup d'efforts, qui ont mis en place des choses et qui se disent, moi, je fais tout bien. Et puis, lui, à côté, il fume, un paquet par jour et il a 3 enfants. C'est des choses que j'ai moi-même ressenties. Tu vois, quand j'ai perdu ma fille, je me disais, mais pourquoi moi ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Malheureusement, c'est... Il y a quand même une part aussi de... de hasard, de génétique, de malchance, bien sûr.
Moi, je lis personnellement les messages envoyés au compte Instagram de Sunday. Je peux dire qu'il n'y a pas une seule semaine sans qu'une femme nous contacte avec un message de détresse expliquant son parcours, voire même son parcours d'essai de PMA, et qui demande de l'aide en fait à une entreprise de compléments alimentaires. Moi, ça me brise le cœur parce que je sais pas si un message sur Instagram ça va vraiment aider. Et l'infertilité, c'est tellement multifactoriel que je peux pas donner directement des conseils. Et en plus, je ne suis pas leur médecin. Ensemble, là, on est en train de faire un podcast pour essayer de donner des pistes, d'ouvrir des portes et d'expliquer un peu les causes les plus communes de l'infertilité masculine, féminine, en espérant que ça puisse un peu inspirer. J'ai repris deux posts Insta que tu as postés. C'était les 20 causes de l'infertilité, côté masculin et côté féminin. Alors, j'aimerais que tu me dises quelques mots par rapport à chaque cause, sans forcément aller dans le détail, juste pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On peut commencer par le côté masculin. J'ai lu surtout aussi que côté masculin, la fertilité des hommes a été divisée par deux en 40 ans. C'est-à-dire que autour de nous, les hommes sont deux fois moins fertiles que leurs pères. Et ça, c'était selon l'analyse Human Reproduction Update du 15 novembre 2022. Et du coup, la première cause que tu lis, c'est l'oligospermie.
Oligospermie, t'as pas assez de spermatozoïdes.
Ok, donc il y a moins de chances que ça
exactement.
Se rencontre. Exactement,
voilà.
Asténospermie.
Donc asténospermie, tu peux avoir suffisamment de spermatozoïdes, mais il manque de vitalité, de vitesse, il se déplace pas comme il faut.
Donc, c'est pas les super-héros.
Non, c'est pas ceux qui vivent potentiellement 6 jours, tu vois.
Voilà. Théranospermie.
Théranospermie, c'est des spermatozoïdes qui n'ont pas la bonne morphologie, pas la bonne forme, qui ont par exemple deux flagelles, une tête pas comme il faut. Voilà.
Ensuite, c'est varicocèle.
Varicocèle, c'est une varice, mais au niveau testiculaire.
Et donc, ça fait quoi?
Ça peut gêner, pareil, la production de spermatozoïdes.
Ok.
Et ça s'opère, ça.
Ah oui.
Ouais, mais tu vois, ça devrait être dans un parcours PMA, ça devrait être systématiquement détecté. Ça se fait avec une échographie. Alors, on peut le faire à la palpation, mais une écho, c'est plus fiable. Et donc, voilà, déjà, tu as une part de réponse.
Donc, les hommes peuvent quand même regarder par eux-mêmes ou il faut absolument voir.
Une grosse varice comme ça, tu peux la sentir à la palpation. Mais après, le mieux, c'est que s'il y a des difficultés, un projet qui tarde, c'est de demander une écho de contrôle.
Ok. Infection génitale.
Donc là, ce sont toutes ces infections qui peuvent causer une inflammation et donc des dégradations sur la spermatogenèse.
Et on ne le voit pas forcément?
Non, ça peut être asymptomatique.
Ah ouais?
Ouais. Pareil, ça se voit dans le spermogramme, il faut investiguer. Bon, après, tu peux aussi avoir des symptômes, et là, c'est relativement évident, mais pas toujours.
Ok. Et ça, c'est surprenant pour moi aussi, troubles hormonaux?
Un homme peut avoir des troubles hormonaux, tout à fait. Un homme, il va avoir besoin de suffisamment de testostérone pour avoir une bonne spermatogenèse. Également, il ne faut pas qu'il ait trop d'oestrogène, un petit peu, mais pas trop. Donc quand tu as des troubles hormonaux, et tu vois, c'est rarement investigué chez les hommes. Ouais. On fait un spermogramme, et puis voilà.
Ok. Cryptocorchilie. C'est très abstrait comme nom.
Cryptorchidie, ça c'est une malformation de naissance avec les testicules qui ne sont pas descendus correctement. Ça s'opère, mais attention, il faut savoir que la fertilité n'est pas entièrement retrouvée après la chirurgie. Donc tu vois, on a un impact qui n'est pas que purement mécanique. Mais ça, pareil, ça c'est détecté souvent assez tôt. Ça veut dire que l'homme produit des spermatozoïdes, mais n'a pas d'érection, donc tu ne peux pas avoir un rapport et une éjaculation qui fait que les spermatozoïdes sont libérés.
Blocage des canaux déférents.
Bien. c'est le sperme tout simplement qui ne passe pas. Et c'est le principe même de la vasectomie comme méthode contraceptive. On vient couper le canal déférent. Donc le sperme est fabriqué, mais il passe pas.
Et du coup, c'est possible quand même d'être fertile.
Ça peut s'opérer. Et puis après, on peut venir chercher les spermatozoïdes à la source et faire des ponctions dans les testicules. Ça existe, ça.
Ah ouais. Ensuite, un classique, l'obésité.
L'obésité, tu peux avoir un surplus, tu as un surplus de tissu graisseux adipeux qui peut avoir un impact justement sur l'équilibre hormonal et tu parles des âmes qui ont trop d'œstrogènes, par exemple.
Et donc, pas assez de testostérone.
Voilà, c'est ça.
Tabagisme.
Bah, le tabac, c'est une cata. Voilà,
ça et oxyde... ça fait quoi, du coup, sur la fertilité?
Bah, ça oxyde tout le tabac, y compris les spermatozoïdes.
Et ensuite, mon préféré, les carences en micronutriments.
Bah oui, tu m'étonnes. Bah là, voilà, quand t'as pas les bons niveaux de micronutriments pour un homme, surtout le zinc, le sélénium, etc., bah, t'as une spermatogenèse qui peut ne pas se faire correctement. Tu peux avoir des impacts aussi sur l'équilibre hormonal.
Du coup, zinc, sélénium,
ah oui,
quoi d'autre?
Zinc en tête de liste. Sélénium, après bah, toutes les vitamines du groupe B, ouais. Comme pour la femme, hein, donc avec en tête de liste la B9, la B12, les autres vitamines du groupe B. Un homme, il doit avoir aussi suffisamment d'iode, de vitamine D. Voilà, faut essayer de mettre tous les curseurs au bon niveau.
On continue avec la consommation excessive d'alcool.
Voilà, l'alcool, t'as des impacts pareil un petit peu partout, hein, inflammation, un dérèglement hormonal aussi. Il faut ralentir.
Et ça fait des effets à long terme, j'imagine, aussi.
Oui, aussi. Après, voilà, il faut se dire que chaque chose que tu mettras en place, ce sera toujours un plus. Donc voilà, à la minute où tu arrêtes le tabac, où tu arrêtes l'alcool, bah, c'est toujours mieux que la veille.
Ouais.
Donc il faut vraiment garder cette idée en tête.
Oui, donc il ne faut pas non plus être trop pessimiste, par exemple,
non.
Si on a fumé beaucoup, si on a bu beaucoup.
C'est ça. Et il ne faut pas se dire, bon, foutu pour foutu, je continue.
Ouais,
non.
Voilà. Ok. Le diabète ou la résistance à l'insuline?
Donc, diabète, résistance à l'insuline, tu peux avoir tout un dérèglement hormonal qui s'installe, de l'inflammation, des spermatozoïdes qui sont fragilisés, parfois même des troubles de l'érection aussi.
Ah ouais. Exposition excessive à la chaleur, ça, c'est par exemple les slips chauffants, connaît. Ça,
Bah oui, comme méthode de contraception.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, alors tout ce qui est les bains, les saunas, le portable dans la poche, l'ordi sur les genoux, les testicules, ça aime le frais. Il faut essayer de limiter toutes ces sources de chaleur.
Ensuite, des choses qu'on peut peut-être pas changer, les facteurs génétiques.
Oui, effectivement, là, c'est plus compliqué. Quand ça se joue à la base, tu pars une conception qui est plus difficile. Et, effectivement.
Ça, je ne connaissais pas du tout l'éjaculation rétrograde.
Oui, alors ça, en fait, tu as le sperme qui est fabriqué, qui part, mais pas dans le bon sens.
Ah, ça veut dire quoi?
Eh ben, ça veut dire qu'en fait, le sperme, il part à l'intérieur de l'organisme masculin au lieu d'être éjecté vers l'extérieur.
Ah, et c'est pas dangereux, ça?
Alors, c'est pas dangereux parce que ton corps, il sait gérer ça, mais ça t'empêche de faire un bébé.
Oui, c'est clair. Ensuite, l'âge paternel.
Oui, tu peux avoir plus l'âge avance, plus t'as des dommages potentiels, notamment sur l'ADN du sperme. Si on devait donner un chiffre limite, tu vois, on dirait qu'à partir de 45 ans, les choses peuvent se compliquer chez l'homme.
Et le dernier, c'est l'exposition à des toxines.
Voilà, ça va être tous les ennemis bien connus de la fertilité, les perturbateurs endocriniens, les solvants, les pesticides. Là, voilà, t'as des impacts comme pour la femme sur ta fertilité globale.
Et bien justement, on passe à la femme maintenant.
C'est parti.
Le premier, c'est, c'en est deux, manque de progestérone et phase lutéale trop courte.
Donc là, t'as une ovulation qui se fait, une rencontre qui se fait également, mais t'as une muqueuse utérine qui n'est pas maintenue correctement ou suffisamment longtemps pour que ton embryon il s'accroche correctement.
Toujours mon chouchou, les carences micronutritionnelles.
Ah oui, on les retrouve partout. Donc chez la femme, c'est pareil. Un manque de vitamine B, surtout de la B9, un manque d'iode, un manque de vitamine D, tout ça, ça impacte ton équilibre hormonal, la qualité de ton ovulation, ta progestérone, donc
tout.
Ouais.
La résistance à l'insuline.
Bah pareil, chez la femme, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez les femmes SOPK. Et donc là, tu peux avoir une inflammation, des androgènes qui augmentent, une qualité ovocytaire détériorée, un cycle plus irrégulier. Donc ça, c'est à détecter aussi.
L'anovulation ou la dysovulation?
Donc là, c'est quand anovulation quand tu n'ovules pas, dysovulation quand tu ovules mal. Donc là, tu as un cycle en fait, qui est soit inexistant, soit irrégulier. Donc une rencontre qui est beaucoup plus complexe.
On continue avec la glaire cervicale inadaptée. D'ailleurs, tu disais même sur Instagram qu'il pouvait y avoir des problématiques avec les antihistaminiques.
Oui, donc une glaire cervicale qui n'est pas adaptée, ça veut dire qui n'a pas, par exemple, le bon pH, la bonne consistance. C'est des spermatozoïdes qui vont avoir du mal à survivre dedans et puis à être propulsé, ça fonctionne aussi comme un ascenseur, hein, la glaire cervicale, ça aide les spermatozoïdes à monter, ça fonctionne comme un toboggan pour les propulser vers l'ovocyte. Et donc tu as des impacts de certains médicaments sur la glaire cervicale, donc les antihistaminiques qu'on prend, tu sais, pour les allergies par exemple, mais pas que, ça peut être aussi certains antidépresseurs, ça faut le savoir, et mon préféré, le Clomid, qui est un médicament qu'on prescrit aux femmes pour les faire ovuler. Donc, faut quand même se dire que te faire ovuler, c'est bien, mais si derrière, le Clomid vient assécher la glaire cervicale et que la recommandation du médecin, ce sont des rapports programmés, eh ben, il faut bosser sur la glaire en parallèle, parce que sinon, c'est dommage, tu vois.
Quelque chose que je savais moins, les dysfonctionnements thyroïdiens.
Donc là, une thyroïde qui va trop vite ou trop lentement, et c'est le cycle qui est impacté en conséquence.
Anomalie génétique.
Voilà, comme pour l'homme, une problématique qui se joue dès la base dans l'ADN et qui peut rendre la conception plus difficile.
Ensuite, polymorphisme chromosomique.
Donc là, ça va être des mutations génétiques. Et par exemple, je vais te citer la plus connue, la mutation du gène MTHFR. Donc là, qui fait que tu assimiles, que tu utilises moins bien la B9, la B12, ces vitamines-là, ce qui peut être problématique dans un projet de grossesse. Ça concernerait quand même jusqu'à 40% de la population.
Ah oui, c'est pas rare du tout, quoi.
C'est pas rare du tout. Alors, avec des impacts plus ou moins importants selon le type de polymorphisme génétique, mais c'est quand même à prendre en compte. Ça veut dire que potentiellement, t'as une personne sur deux, presque, qui est concernée. C'est énorme.
Ouais. Ok, donc faut faire attention à ça, et en tout cas à la B9, du coup.
Il faut idéalement prendre des sources de vitamines B9, B12 méthylées. Comme ça, en fait, t'es sûr, parce qu'on va pas faire un examen génétique à chaque couple,
tout le monde,
voilà, à chaque couple qui décide d'avoir un bébé. Donc, normalement, le médecin, il va te prescrire de l'acide folique classique. Donc, c'est de la B9, hein, mais sous forme acide folique. Ce qui veut dire que si tu es porteur de cette mutation,
tu vas pas bien le
il se peut, voilà, que tu ne l'assimiles pas bien. Donc, comme ça, tu t'enlèves ça de la tête. Tu choisis des formes méthylées, ça va s'appeler méthylfolate, quadrifolique par exemple, t'es tranquille.
C'est pas beaucoup plus cher que l'acide folique classique, j'imagine ?
Bah, c'est-à-dire qu'en France, l'acide folique classique est remboursé par la Sécurité sociale. Mais c'est un peu comme ça pour tout. La Sécu, ça coûte très cher, donc ils vont rembourser les formes les moins chères à produire, à conserver.
L'insuffisance ovarienne prématurée.
Donc là, t'as une ovulation qui se fait, mais qui va être de plus en plus mauvaise qualité, ça peut impacter évidemment l'embryon et puis aussi ta sécrétion progestérone et la régularité de ton cycle aussi.
Maintenant, c'est connu, l'endométriose, l'adénomyose.
Donc là, ça va être des problématiques inflammatoires qui peuvent avoir un impact sur l'implantation de ton embryon.
T'en parlais tout à l'heure, le SOPK.
Oui, donc syndrome des ovaires polykystiques. Alors là, le SOPK, en fonction des femmes, t'as des impacts plus ou moins grand et un peu en cascade sur l'inflammation, sur la régularité de ton cycle. Tu as trop d'androgènes, donc une qualité ovocytaire qui est moins bonne. Tu sécrètes moins de progestérone. Voilà, ça, c'est vraiment une pathologie multifactorielle qu'il faut administrer en prenant chaque chose les unes après les autres.
Comme chez les hommes, le blocage des trompes de Fallope.
Ouais, c'est un peu le même raisonnement. Donc là, tu as des trompes qui peuvent ne pas être perméables. Donc tu as soit un ovocyte qui ne peut pas tout simplement rencontrer le spermatozoïde. Tu peux aussi avoir des trompes un petit peu endommagées, ce qui peut causer une implantation de ton embryon au mauvais endroit aussi, qui reste par exemple dans la trompe. Et là, c'est la grossesse extra-utérine. Ça, c'est dangereux pour la femme, très dangereux. Donc, il faut tout de suite, avec des signaux d'alerte type douleur, des saignements anormaux, un taux de bêta-HCG, tu sais, qui est l'hormone de la grossesse, qui ne va pas avoir une cinétique normale. Il faut faire un contrôle échographique pour vérifier où est l'embryon. Est-ce qu'il est bien dans la cavité utérine ? Et ça, c'est hyper dur à comprendre, mais dans tous les cas, la grossesse doit être stoppée. On ne sait pas aujourd'hui prendre l'embryon et le remettre où il faut.
Ensuite, l'endomètre fin.
Endomètre fin, là, tu vas avoir une muqueuse qui n'est pas assez épaisse pour que l'embryon vienne s'y implanter correctement. Il ne fait pas son nid correctement.
Plus long, l'hyperprolactinémie.
Donc là, tu as trop de prolactine et tu as des impacts, notamment sur l'ovulation. Ça peut retarder ton ovulation, voire même la couper, donc tu n'ovules pas. Tu peux avoir une conséquence sur ta sécrétion de progestérone aussi.
On passe ensuite à la mauvaise qualité ovocytaire.
Donc là, qui peut avoir des causes multiples. Hein. Donc tu as une ovulation, mais pas suffisamment qualitative pour avoir un bon embryon derrière. Et pareil, qui dit mauvaise qualité ovocytaire dit mauvaise sécrétion de progestérone.
Ça, je ne connaissais pas du tout. L'endométrite aiguë ou chronique.
Ça ressemble à l'endométriose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ça concernerait jusqu'à 30% des femmes en parcours PMA, ce qui est énorme, encore une fois. Tu peux ne pas avoir de symptômes du tout. Alors, plutôt dans le cas d'une endométrite chronique, hein, tu vois qu'elle est là depuis longtemps aiguë, souvent tu as quand même des symptômes qui s'installent, mais et tu as en fait la muqueuse qui est inflammée, tu vois, quand tu as le suffixe it, ça veut dire inflammation, donc voilà, et qui rend la nidation impossible.
Ensuite, les adhérences dans la cavité utérine.
Donc là, ça peut être des cicatrices qui viennent gêner l'implantation de ton embryon, qui prennent de la place dans l'utérus. Mmh. Ça peut être lié, par exemple, à un curetage. Tu sais, quand la grossesse s'arrête ou qu'on décide d'arrêter la grossesse, eh bien, on vient racler la muqueuse utérine. Et puis, quand ce n'est pas très bien fait, eh bien, tu peux avoir ces lésions. Ouais, c'est ça.
Et enfin, les anomalies structurelles du col de l'utérus.
Donc là, un peu sur le même modèle que le canal déférent qui est bloqué pour l'homme, bah, t'as des spermatozoïdes qui ne peuvent pas passer.
Alors, c'était la fin de la liste, mais moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surprise. C'était que tu parlais pas de l'âge de la femme. Et moi, perso, c'était un peu quelque chose qui me faisait peur parce que j'ai 30 ans et je sais que si je veux tomber enceinte, il faudrait que je le fasse bientôt. Parce que sinon, on va parler de grossesse gériatrique à partir de 35 ans. Et moi, ça m'a surprise.
Oui, mais non, mais t'es toute jeune, Noémie, encore.
Ah oui, mais pourtant, tu vois, de se dire j'ai 5 ans, c'est pas très long quand même.
Oui, c'est sûr. Non, mais alors déjà, l'âge, c'est vrai que c'est un facteur déterminant. Je ne l'ai pas mentionné parce que, si tu veux, les femmes, on leur rabâche tellement que l'âge est un problème, que ce soit les médecins, sur les réseaux sociaux, elles le savent. Donc moi, j'ai voulu, tu vois, mentionner des choses sur lesquelles elles peuvent agir. Ça ne veut pas dire que l'âge n'est pas important. Et concernant le terme de grossesse gériatrique, je pense que c'est juste un terme qui est complètement dépassé. Ça fait référence à une réalité de femmes avant qui avaient rarement des enfants après 30 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'âge est moins important aujourd'hui. Ça veut juste dire que le discours médical va devoir s'adapter et se caler sur la réalité sociétale des femmes d'aujourd'hui.
Maintenant, on a passé en revue plusieurs causes de l'infertilité et j'aimerais qu'on se penche maintenant sur les solutions pour booster sa fertilité. En France, il y a un truc qui est incroyable et moi, j'étais un peu jalouse, c'est la congélation des ovocytes et c'est même remboursé par la Sécu pour les femmes âgées entre 29 et 37 ans. Donc, si vous le saviez pas, et ben en plus c'est sans motif médical. Et toi, tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Une excellente idée même. Franchement, c'est super. Enfin, si on peut le faire, il faut pas s'en priver. C'est vraiment une chance extraordinaire puisque ça te permet de quelque part de retarder un peu le temps. Tu vois, c'est incroyable. Après, il faut bien avoir en tête que c'est génial. Ce n'est pas une assurance à 100%. Ça veut dire que tu congèles tes ovocytes. Mais tu peux avoir, par exemple, des problématiques de fertilité avec ton partenaire, futur partenaire. Tu peux avoir aussi des problématiques autour de la muqueuse utérine, de l'implantation, de ton immunité. Donc voilà, il faut avoir en tête, ça peut être hyper déceptif hein, pour les couples de se dire « j'ai 20 ovocytes et puis tu vois, on n'y arrive quand même pas ». Voilà, donc il faut garder ça en tête. Et puis également, autre chose, c'est qu'un ovocyte, c'est fragile à la décongélation. Beaucoup plus qu'un embryon. Quand tu décongèles tes embryons, c'est très rare maintenant que tu en perdes. Les ovocytes, c'est pas le cas. Tu peux en perdre jusqu'à 50%. C'est beaucoup. Hein.
Ouais.
Ça veut dire que pour faire une préservation ovocytaire, le centre PMA veut s'assurer de récolter un suffisamment grand nombre d'ovocytes pour que ce soit, entre guillemets, intéressant. Ce qui veut dire que tu peux être amené à enchaîner les ponctions, les stimulations. Donc, voilà, en fonction des femmes, le process peut être plus ou moins fatigant quand même. Donc c'est génial, c'est pas une garantie à 100%.
Donc c'est juste une pièce du puzzle.
Oui.
Et en plus de ça, il faut faire attention du coup à son environnement et même à bien se préparer.
Oui.
Parce que ça va être un process qui est un peu long.
Bah exactement, moi je pense que quand tu pars en préservation ovocytaire, l'idéal c'est de la préparer 3-6 mois en amont. Comme ça, tu sais que tu as mis toutes les chances de ton côté, pas de regrets pour plus tard. Alors, la préparer bah, avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on va aborder par la suite. Hein, mais,
Il y a quelques mois, j'ai vu passer un certain nombre de vidéos sur Insta qui disaient que si les femmes allaient passer 9 mois à faire des efforts sur l'hygiène de vie, la nutrition, la micronutrition, les hommes devraient aussi en faire autant 3 mois avant la conception. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Bah oui, c'est un minimum même. Donc la spermatogenèse, ça dure 72 jours. Donc tu vois, on se dit, bah voilà, 3 mois avant, on commence à se préparer pour un homme. Bon, si tu lui dis 6 ou 9 mois avant, je pense qu'il va, il va tomber par terre. Donc 3 mois, c'est bien. Et donc, dans ce que tu peux mettre en place pour un homme qui va être intéressant, tu as tous les piliers d'hygiène de vie. Donc le sommeil, dormir suffisamment, un sommeil réparateur, le stress, savoir identifier et gérer son stress, arrêter le tabac, l'alcool. Alors, arrêter complètement le tabac 3 mois avant, ce serait vraiment bien. Et l'alcool, allez, on va dire diminuer drastiquement l'alcool. Donc, on ne se met plus des grosses caisses. Voilà, quelques verres d'alcool léger par semaine, ça peut passer si vraiment c'est indispensable à l'équilibre aussi de l'homme. Hein. Enfin, voilà. Mais si on peut stopper, c'est encore mieux.
Donc, on devient papa avant.
Bah oui, tu deviens papa en fait à la minute où tu décides de faire un bébé et avec toutes les responsabilités que ça implique et même pour la santé future de ton enfant aussi. Donc c'est important de mettre en place toutes ces choses dès que tu souhaites te lancer.
Dans l'hygiène de vie, il y a aussi le sport et la nutrition.
Oui, il y a le sport, donc ne pas être trop sédentaire, mais attention aussi à ne pas avoir une pratique sportive trop intensive qui peut impacter la spermatogenèse. Et ça, parfois, c'est un problème chez les hommes.
Ça veut dire quoi, trop intensif ?
Bah, ça veut dire... Alors déjà, tu vois, quand tu es sportif de haut niveau, il faut anticiper le projet de grossesse. Mmh. Tu peux avoir un impact, un sperme qui est dégradé parce que tu fais beaucoup, beaucoup de sport à haute intensité. Après, ça peut être... je le vois parfois, tu vois, par exemple, un homme qui va préparer un Ironman, tu vois. Mmh. J'en ai, hein. Voilà, c'est top, hein. Mais faut avoir conscience que ça peut avoir un impact aussi. Mmh.
Et sur l'alimentation ?
Sur l'alimentation, bah pour un homme, ça va être privilégier les protéines de qualité et consommer suffisamment de protéines à adapter à ta pratique sportive aussi. Et puis, une alimentation variée, équilibrée, des oméga-3, des légumes en quantité suffisante. Voilà.
Et en supplémentation ?
Et bah, la supplémentation, donc tu vas retrouver du zinc qu'il faut amener, de nos vitamines B9, B12 sous forme méthylée, toujours les mêmes, du sélénium aussi. Et puis, bah, tu peux travailler aussi avec des oméga-3, par exemple, si l'homme ne consomme pas de source d'oméga-3, donc des petits poissons gras, de la vitamine D si il en a besoin, du magnésium s'il est stressé, etc. Et puis, tu peux venir travailler aussi s'il y a des problématiques avec des antioxydants, du coenzyme Q10, de l'ANAC, voilà, en fonction des profils.
Tu viens de mentionner le stress. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus ? Dans presque tous les épisodes, on le mentionne parce que ça a une influence tellement grande sur l'organisme et j'imagine que ça a une influence aussi sur la fertilité.
Oui, le stress bah, va impacter ton organisme de façon globale, tes niveaux d'hormones, ça peut venir épuiser l'organisme, donc avec des impacts sur la qualité ovocytaire, sur la qualité du sperme. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce contexte avec le stress, c'est qu'il faut avoir conscience que quand tu es stressé, ton organisme, il va toujours privilégier de te protéger face à ce stress en sécrétant du cortisol, qui est l'hormone du stress qu'on connaît bien. Sauf que cette sécrétion de cortisol, elle se fait au détriment de la sécrétion d'une autre hormone qui s'appelle la prégnénolone. Et ça, c'est une hormone hyper importante dont on parle quasiment jamais.
C'est vrai.
Ouais, voilà. Il y en a sûrement qui la découvrent là tout de suite. C'est le matériau de base de la fabrication de tes hormones stéroïdiennes, donc de ta progestérone, de ta testostérone, de tes œstrogènes. Donc quand tu es stressé, eh ben, tu sécrètes tout simplement moins d'œstrogènes, etc., pour aller sécréter du cortisol. Donc c'est quand même, ça peut être un problème. Et par exemple, tu parles des femmes qui arrêtent même d'ovuler.
Mmh. Oui, elles sont en mode survie, en fait.
C'est ça. On le voit dans la nature, tu vois, avec des mammifères qui seraient dans un environnement, par exemple, qui a été très dégradé ou qui manque vraiment de nourriture. Eh bien, ton corps, tout simplement, il met l'ovulation sur pause pour te protéger d'une grossesse qui te mettrait en danger, en fait.
Du coup, c'est bien d'avoir des solutions pour son stress, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, au final. Qu'est-ce que tu recommanderais, en général, rapidement, pour tout ça?
Déjà, il faut savoir l'identifier, le stress, reconnaître qu'on est stressé. C'est plus difficile souvent chez les hommes qui ont
accepter.
Ouais, ou qui n'en ont pas conscience, en fait. Une femme aura plus facilement conscience qu'elle est exposée à du stress, ou en tout cas, elle aura ce réflexe de se poser la question. Là où un homme, peut-être, ne se posera pas cette question-là. Et donc, de façon assez brève, ce que tu peux faire, c'est mettre des techniques de gestion du stress dans ton quotidien. Ça peut être de la cohérence cardiaque, de la méditation, de la sophrologie. Tu as même des gens qui ne sont pas fans de tout ça et pour qui ça va être des activités manuelles. Ça fonctionne aussi, tu vois. Même la lecture aussi, ça peut être un moyen de couper un peu le petit vélo. Voilà. Et puis, tu peux aussi t'appuyer, évidemment, sur les nutriments, les plantes. Donc, du magnésium, c'est indispensable pour faire face au stress. Et puis, des plantes adaptogènes qui vont être formidables, comme la ashwagandha, la rhodiola, pour t'aider à faire face à ce stress.
Et il y a un autre type de stress qu'on connaît, c'est le stress oxydatif. Et il semblerait qu'il ait aussi un rôle dans la qualité ovocytaire et spermatique. Mais concrètement, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire.
Alors, le stress oxydatif, déjà, c'est toute cette accumulation de radicaux libres qui va venir impacter nos cellules et donc aussi les oocytes, les spermatozoïdes. Donc, pour gérer le stress oxydatif, tu as deux leviers qui sont assez logiques. Le premier, ce serait de limiter l'exposition au stress oxydatif. Donc là, comment on fait ? Eh ben, on limite le tabac. Également la pollution, mais alors ça c'est quand même plus difficile parce que tout le monde ne peut pas changer d'environnement quand il a un désir de grossesse. Ne pas être trop sédentaire, ne pas faire trop de sport non plus, enfin en tout cas à outrance, et puis une alimentation qui va être adaptée, c'est-à-dire pas trop de sucre raffiné, pas une alimentation trop transformée. Ça te protège déjà du stress oxydatif. Et puis l'autre pilier, ça va être d'amener des défenseurs face à ce stress. Donc là, c'est nos fameux antioxydants que tu retrouves dans l'alimentation, par exemple avec les légumes colorés, les baies rouges, les noix, etc. Et puis que tu peux amener par la micronutrition aussi. Donc là, ça va être tout ce qui est vitamine C, vitamine E, et puis nos chouchous, coenzyme Q10, NAC, acide alpha-lipoïque et compagnie.
Un autre sujet. Les perturbateurs endocriniens, c'est devenu courant dans le débat public. Et je pense que c'est encore quand même assez flou à quel point ils ont un impact sur notre corps, plastique, cosmétique, alimentation. C'est quoi les choses qu'il faudrait éviter dès aujourd'hui pour mettre toutes ses chances de son côté, que ce soit pour sa fertilité ou pour sa santé en général?
Donc déjà, si on devait rappeler ce qu'est un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui imite ou bloque nos hormones. Donc là, on comprend bien que ça peut avoir un impact sur ta fertilité. Bon, il ne faut pas que ça devienne une prise de tête intersidérale. L'idée, ce n'est pas de rajouter de la charge mentale et du stress. Mais il y a des choses très simples que tu peux faire au quotidien. Donc si on reprend tout ce qui est plastique, les BPA, etc. Là, dans ton quotidien, tu peux tout simplement changer tes tupperwares en plastique pour des tupperwares en verre. Changer ta gourde d'eau minérale pour une gourde en inox, par exemple. Ne jamais faire réchauffer quelque chose dans un contenant en plastique. Donc, tu vois,
dans une assiette plutôt.
Bah oui, si tu achètes un petit plat préparé, c'est pas grave, mais juste essaye de le passer dans l'assiette avant de le mettre au micro-ondes et pas le faire chauffer dans sa barquette. Bon. Après, tout ce qui est cosmétique, produits ménagers, ça va être de façon très simple choisir des produits qui ont la composition la plus courte possible. Comme ça, tu te préserves qu'il y ait des tas de choses ajoutées à l'intérieur. Les produits ménagers, on peut s'en tenir au bon vieux vinaigre blanc, bicarbonate de soude. Franchement, ça fait le job.
Et ensuite, c'est plutôt dans l'alimentation. On sait que les pesticides, c'est problématique. Et je ne savais pas que les pesticides aussi pouvaient être des perturbateurs endocriniens.
Eh bien si, malheureusement, c'est tout le débat politique actuel un peu en France, donc on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que tu as ces résidus de pesticides qui sont présents dans l'alimentation. C'est illusoire aujourd'hui de se dire que tu vas les éviter complètement, ne serait-ce que parce que les sols sont très pollués. Bon, mais ce que tu peux faire à ton échelle, ça va être privilégier le bio, les circuits courts dans la mesure du possible, et puis bien laver aussi tes fruits, tes légumes, pour pas qu'il y ait ces résidus qui restent sur la peau de tes légumes.
Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la nutrition, la micronutrition, dans le cadre de la fertilité, d'autant plus qu'on a vu que les carences étaient l'une des causes communes aux hommes et aux femmes. Alors, quels sont les aliments à ne pas passer à côté ?
Donc, quand on va parler de fertilité, ce qu'il faut bien amener dans son alimentation, ça va être suffisamment de protéines. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais c'est important, et surtout chez les femmes qui ont tendance à consommer trop peu de protéines. Donc, suffisamment, c'est quoi? Ça va être 1 gramme par kilo de poids par jour, à peu près. C'est à adapter quand même à ton rythme de vie. Si t'es sédentaire, un peu moins. Si t'es sportive, un peu plus. Ça, c'est important. Et donc, des protéines qualitatives, avec des animaux, si possible, qui n'ont pas été élevés, tu vois, en batterie, comme les volailles, etc. Des animaux qui ont mangé de l'herbe. Ça paraît idiot, mais c'est de plus en plus rare. Donc ça, il faut faire attention. Également, tu amènes des bons lipides dans ton alimentation. Donc, des oméga-3 en tête de liste. Ça va être choisir tout ce qui est filière bleu-blanc-cœur. Donc, les œufs bleu-blanc-cœur, la viande bleu-blanc-cœur. Là, tu as ces oméga-3 qui vont être apportés. Les petits poissons gras. Les gros poissons gras, saumon, thon, on essaye de limiter à une fois par semaine parce que tu as une pollution au mercure qui, du coup, a un impact négatif. Donc, il faut faire attention. Et puis aussi, d'autres types d'acides gras qualitatifs comme les huiles végétales de première pression à froid, les oléagineux, les avocats, voilà, tout ça, c'est intéressant. Il faut penser aussi à amener suffisamment de légumes variés, colorés. Alors, autant 5 légumes par jour, oui, 5 fruits. Tu vois, t'es pas obligé de manger 5 fruits par jour. Hein. Tu peux manger un fruit par jour, c'est bien. Mais les légumes, il faut que t'aies une assiette colorée un peu sur le modèle méditerranéen. Voilà. Ensuite, les produits laitiers. On s'attend peut-être pas à les trouver dans la liste avec tout ce qu'on voit sur les produits laitiers, mais les produits laitiers de qualité, quand tu les tolères bien, sont un atout pour la fertilité. On a des études qui le montrent. C'est simplement qu'il faut choisir des produits au lait entier et pas des produits écrémés 0% qui sont passés par des processus très industriels qui, là, peuvent avoir un impact négatif sur l'équilibre hormonal. Donc, produits laitiers, si on les tolère bien, on ne s'en prive pas. Et puis, pensez à saler suffisamment les plats avec du sel iodé de qualité, mais ça, c'est important pour le fonctionnement de la thyroïde. Les gens manquent d'iode, c'est d'autant plus vrai que tu habites loin des côtes, que tu consommes pas de fruits de mer, etc. Et puis, si on devait donner une dernière astuce, ce serait de s'hydrater suffisamment. Ça paraît tout bête, mais la glaire cervicale, c'est une immense majorité d'eau. Tu bois pas suffisamment, tu as des impacts.
Et puis, tout ce qui est aliments transformés, j'imagine
Aliments transformés, sucres raffinés, tout ça, on essaye de limiter au maximum, d'éviter. Il faut privilégier le fait maison tant que c'est possible. Pas des choses compliquées, élaborées, mais voilà, acheter des produits bruts et puis venir les associer toi-même à la maison, c'est encore mieux.
Tu as mentionné les lipides et moi, j'avais lu qu'on parle souvent de bon ou de mauvais cholestérol, mais qu'il faudrait un équilibre entre HDL et le LDL pour influencer la production hormonale et aussi la qualité des ovocytes ou du sperme. Est-ce que c'est vrai?
Alors oui, c'est vrai. Le ratio LDL-HDL, il est important. Faut pas qu'il soit ni trop bas, ni trop haut. Faut chercher un équilibre. Souvent, on dit inférieur à 3. Mais le plus important, en fait, au-delà de ces deux types de cholestérol, ça va être combien tu as de cholestérol au total. Parce que si tu te rappelles bien, notre prégnénolone, qui est l'hormone mère de toutes nos hormones stéroïdiennes, elle est fabriquée avec du cholestérol. C'est vraiment la première brique, le premier matériau de fabrication de tout le reste. Donc si tu manques de cholestérol, tu auras des difficultés à produire suffisamment d'hormones et donc tu vas avoir un impact sur ton cycle. Ça peut être par exemple pour une femme manquer de progestérone parce qu'elle ne consomme pas suffisamment d'acide gras. Tout le monde a peur du gras, a peur du sucre ou du gras de mauvaise qualité, mais voilà.
Côté micronutrition, y a des gens comme moi qui ne sont pas encore sûrs de vouloir des enfants et qui aimeraient quand même juste prendre soin de sa santé au cas où. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Après, même que tu veuilles un enfant ou pas, ça vaut le coup de travailler avec la micronutrition pour être en bonne santé, pour tomber moins malade l'hiver. Et donc, c'est des choses assez simples que tu peux faire, c'est des réflexes qu'il faut avoir. Tu peux faire des cures de multivitamines, une à trois fois par an. Donc là, tu choisis des multivitamines de qualité avec ce dont on a parlé, donc des formes biodisponibles de vitamines, de la B9 méthylée, etc. Également, il faudrait prendre de la vitamine D potentiellement toute l'année si tu en as besoin. Tu fais un dosage une, deux fois par an en labo et puis tu essayes de te maintenir autour de 60 nanogrammes par millilitre, tu vois, si on devait donner un chiffre. Ça, très important. Du magnésium aussi, l'immense majorité des femmes et des gens en général manquent de magnésium parce qu'on a des vies stressantes. Donc ça, tu peux te supplémenter au long cours. Et puis, tu peux aussi travailler sur ton microbiote. soit avec les aliments lactofermentés, soit en faisant des cures régulières de probiotiques, en variant les souches. C'est intéressant aussi.
Top. Comme ça, je sais tout. Une fois qu'on sait que c'est le moment, il existe notamment dans notre boutique des multivitamines pour les femmes en désir de grossesse. Est-ce que c'est judicieux d'utiliser ces multivitamines pour compléter ?
Oui, alors si tu veux quelqu'un qui est en désir de grossesse, moi je suis de la team, je pense que c'est plus possible aujourd'hui de faire sans multivitamines. Je pense que l'alimentation c'est trop appauvri, même le bio, même voilà, tu peux manger tout correctement. Je n'ai jamais vu des gens qui avaient des bilans parfaits partout. Donc prendre un multivitamine, bah, ça te permet de pallier d'éventuelles carences. Il faut simplement choisir, mais c'est toujours le cas chez Sunday, des multivitamines qui ont des formes biodisponible, c'est-à-dire que ton organisme va savoir utiliser directement, même si tu es porteur d'une mutation. Voilà, donc c'est très intéressant. Et de toute façon, en préconception pour une femme, on recommande 400 microgrammes de vitamine B9. C'est obligatoire dès le moment du désir de grossesse et jusqu'à la fin du premier trimestre.
Du coup, ça vaut le coup, par exemple, si je suis sur le All-in-One One a Day, de switcher sur... une multivitamine de grossesse.
Bah, tu peux, oui, préconception ou grossesse, enfin fertilité ou grossesse. Simplement, alors si tu es sur le All-in-One et que tu en as commandé pour 6 mois, eh bien, très bien, tu vois, tu peux le garder. Mais c'est vrai que ces multivitamines-là sont plus travaillées dans une idée de préconception. Donc, tu as des apports qui sont légèrement adaptés pour cette période de la vie de la femme. Hein.
Et ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu des parcours PMA et FIV. Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi un peu spécifiques qui te viennent en tête ? Moi, j'avais listé 3 choses. La première, c'était préparer le terrain avant la stimulation ovarienne, la FIV. La seconde, c'était le soutien à la spermatogenèse. Et la dernière, c'est la gestion des carences liées au traitement. Donc, quand il y a de l'hormonothérapie, les piqûres, etc. Est-ce que tu penses à autre chose ?
Ben, si tu veux, déjà, si on reprend ces 3 grandes étapes, donc préparer sa FIV ou des inséminations, on s'y prend en amont, comme on a dit, hein, idéalement 6 mois avant. Donc là, tu viens travailler avec toute notre base, notre package dont on a parlé, multivitamines, oméga 3, vitamine D. Et puis, tu peux venir, dans cet instant de ta vie, amener des antioxydants plus ciblés. Le coenzyme Q10, la NAC, par exemple. Ça, pour la femme. Après, le soutien à la spermatogenèse, bah, pareil, on amène, alors là on s'y prend idéalement 3 mois avant, on vient bosser avec notre multivitamine, l'homme il faut lui apporter surtout du zinc, du sélénium, des vitamines du groupe B. Et puis tu peux aussi travailler avec des antioxydants, mais attention, la spermatogenèse c'est quelque chose qui demande un minimum de stress oxydatif pour aboutir. Ça veut dire qu'il ne faut pas cumuler tous les antioxydants auxquels tu penses et à des doses très fortes. Donc une petite dose de coenzyme Q10, une petite dose de NAC, pour un homme c'est très bien. Et puis concernant vraiment quand tu es dans le feu de stimulation hormonale, que tu as des injections, etc., c'est vrai que ça fatigue l'organisme, ça fatigue le foie. Donc il faut bien continuer de prendre ton multivitamine, c'est important. Il faut aussi regarder du côté de ton alimentation, que tu aies vraiment une alimentation soutenante, c'est très important également. On peut être tenté dans ces moments-là de travailler sur le foie. Attention, on ne fait pas de détox pendant une stimulation hormonale. On ne fait pas de détox trop près d'un transfert d'embryon. Donc, ce que tu peux faire de façon simple et sécuritaire, ça va être par exemple te mettre une bouillotte chaude, tu vois, sur le foie 20 minutes après le dîner. Ça, ça va aider ton foie sans pour autant causer de potentielles complications. Et puis, tu peux prendre un petit peu de tisane de romarin, mais pas trop.
Voilà. Donc, on reste tranquille aussi.
On reste tranquille. Voilà. On reste tranquille. Et puis, tu vois, une femme pendant la stimulation qui serait à risque d'hyperstimulation. Donc ça, c'est quand, en fait, on te fait des injections et que tu as tellement d'ovocytes qui maturent que du coup, tout s'emballe, tes œstrogènes montent au plafond, etc. Là, il faut faire attention de ne pas faire trop de sport. Ça peut aggraver cette situation. En revanche, il faut penser bien à marcher tous les jours, si on peut, pour bien vasculariser les tissus, etc.
OK. Donc là, tu as mentionné beaucoup de nutriments, de vitamines. Je voudrais aussi qu'on mentionne celles qu'on a vues sur ton compte Instagram, mais qu'on n'a pas forcément dit là tout de suite. Donc je vais te faire une petite liste. On fait ça rapidement, juste pour qu'on puisse aussi comprendre pourquoi ça pourrait être utile. Extrait de safran.
Safran, super pour l'équilibre émotionnel de la femme notamment. En revanche, on stoppe en stimulation.
La glycine.
Glycine, top pour le sommeil, la vascularisation, j'adore.
Le myo-inositol.
Un indispensable des femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques et ou des femmes résistantes à l'insuline.
L'achille et millefeuille.
L'achille et millefeuille, elle va dynamiser la phase folliculaire et puis avoir un impact positif sur la glaire cervicale.
L'alchémie, attention à pas confondre.
On les confond toujours, ces deux-là. Alchémie, elle va servir pour ta phase lutéale, pour soutenir ta sécrétion de progestérone.
Le gâtillier.
Alors gâtillier, ça va être la plante la plus puissante de notre arsenal. Toujours cette idée de soutien de la progestérone, t'as aussi un effet sur la prolactine.
La vitamine E.
Vitamine E, elle va être antioxydante, elle va favoriser la microcirculation, donc elle est très utile notamment pour les transferts d'embryons.
T'as parlé de la NAC rapidement,
oui.
Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus ?
Alors NAC, N-acétylcystéine, alors celle-là je l'adore, antioxydante, anti-inflammatoire, elle travaille la qualité ovocytaire, elle vient fluidifier la glaire cervicale. En fait, c'est un fluidifiant des sécrétions. C'est comme, tu sais, quand on te donne, que tu as un rhume et qu'on te donne la petite poudre, ben c'est de l'acétylcystéine. Donc, ça vient fluidifier aussi la glaire cervicale. Je l'adore pour, par exemple, les endométrioses.
On n'en a pas parlé du tout, le fer.
Le fer, bah, très important, d'autant plus qu'il y a une grande majorité des femmes qui sont carencées, notamment parce qu'elles consomment peu de viande rouge et parce qu'on a des saignements mensuels. En revanche, on se supplémente en faisant un bilan sanguin.
Ensemble, le resvératrol et la quercétine.
Alors, le resvératrol, c'est un polyphénol qui va avoir des effets antioxydants, qui va être très intéressant dans les contextes inflammatoires, par exemple l'endométriose aussi. Et puis, la quercétine, c'est différent. Ça va être une substance qui va être utilisée pour les contextes allergiques, l'eczéma, tout ce qui est la suractivité immunitaire.
Le fameux chatavari.
Chatavari, c'est une plante adaptogène que j'adore utiliser chez les femmes qui ont un cycle un peu plat, mou, les femmes fatiguées.
Donc j'espère avec tout ça, on peut tomber enceinte. Après toutes ces informations et ces efforts, on espère qu'on peut tomber enceinte. Et pourtant, il y a une grossesse sur quatre finie en fausse couche. Je trouve qu'il y a de plus en plus de couples qui en parlent ouvertement, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a même de plus en plus de propositions de congés de deuil qui vont dans le sens de libérer la parole sur le fait, sur quelque chose qui était presque honteux il y a une vingtaine ou même trentaine d'années. Mais il y a toujours cette culpabilité chez les femmes qui est très présente. Tu parlais déjà tout à l'heure de ça dans tes consultations. Et en plus de ça, il y a le deuil qui se rajoute, alors que ce n'est pas uniquement à cause de la femme. Selon le rapport de l'INSERM, en 2012, l'infertilité viendrait à la fois du côté féminin à 30%, des hommes aussi de 30%, les deux combinés 30% aussi, et seulement 10% inexpliqué. On entend même dire que le spermatozoïde serait plus en cause que l'ovocyte. Est-ce que tu es d'accord ?
Oui, alors bon, si tu veux, l'idée, c'est pas de dire qui est le plus coupable, mais les chiffres de l'INSERM sont tout à fait criants de vérité, c'est-à-dire que l'infertilité, c'est des causes, et la fausse couche sont des causes partagées. Et on sait aujourd'hui que la qualité du spermatozoïde, son ADN, l'âge du père aussi, tout ça, ça compte énormément, et ça peut conduire à des fausses couches. C'est pour ça que, déjà, il faut que enlever cette idée que c'est le corps de la femme qui serait responsable. Et puis, c'est aussi un bon moyen d'impliquer l'homme dans le projet.
Et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour prévenir ces fausses couches ?
Alors, il y a plusieurs axes qu'on peut travailler pour la prévention de la fausse couche. Donc, si tu pars de la base, la qualité ovocytaire, la qualité des spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes, pour savoir s'ils sont de bonne qualité, c'est relativement facile puisqu'on fait un spermogramme. Dans lequel, un spermogramme, c'est visuel. Tu vois, on regarde s'ils ont suffisamment de vitalité, s'ils ont la bonne forme, etc. Il faut penser à analyser la fragmentation, la condensation de l'ADN. Donc, un spermogramme, tu sais s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Pour les ovocytes, c'est plus compliqué. On ne va pas ponctionner un ovocyte et regarder s'il est bien. En revanche, chez la femme, tu as quand même des indices qui te disent si, oui ou non, tu as une bonne qualité ovocytaire. Tu vas avoir notamment ta glaire cervicale encore elle, puisque un ovocyte qui mature correctement, il va sécréter suffisamment d'œstrogènes. Et cette sécrétion d'œstrogènes va favoriser la glaire cervicale. Donc quand tu as une glaire cervicale qui évolue correctement, qui est abondante, on sait quand même que les process hormonaux de maturation de l'ovocyte se passent bien. Et puis aussi, la qualité de ta phase lutéale. Parce qu'en fait, l'ovocyte, quand il est expulsé de son follicule, il laisse une sorte de cicatrice qu'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, c'est lui qui vient sécréter la progestérone. Donc, plus ton ovocyte était qualitatif, plus le corps jaune sera costaud et à même de soutenir correctement ta phase lutéale. Donc, tu as quand même plein d'indices qui te montrent que les choses se passent bien chez la femme. Donc, qualité ovocytaire, qualité des spermatozoïdes. S'il y a des sujets, on travaille avec tout ce qu'on a expliqué auparavant. Mmh. Après, tu as d'autres axes de prévention. Alors, prendre ton multivitamine avec B9
méthylé. On le rabâche.
Voilà. Ça reste vraiment un pilier de base. Ça te préserve quand même de beaucoup de complications. Et puis, il reste deux choses. Il y en a plein d'autres, voilà, dans les grands axes qu'on peut faire, notamment surveiller la progestérone. Il y a quand même beaucoup trop de grossesses qui s'arrêtent par manque de progestérone. Et ça, c'est pas possible parce qu'on sait faire. On sait supplémenter la femme en progestérone. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Tu peux faire un dosage de progestérone 7 jours après ton ovulation sur un cycle normal. Mmh. On attend un taux de 15-20 nanogrammes par millilitre en sachant quand même que le taux de progestérone d'un cycle ne présage pas du taux de progestérone du cycle suivant. Ça te donne un indice, évidemment. Ouais. Donc moi, mon conseil, c'est que dès que la grossesse démarre, à ta charge ou avec une ordonnance, tu fais doser ta progestérone. Mmh. Et si c'est en dessous de ces 15-20 nanogrammes par millilitre, tu prends rapidement attache avec ton gynéco, tu expliques la situation. Mmh. Là, ça te fait un gros filet de sécurité d'être supplémenté.
Okay.
Et puis, le dernier axe de travail, ça va être la thyroïde.
Ah ouais.
Eh oui, parce qu'on sait qu'au-delà, donc la TSH, qui est le marqueur de base, hein, vraiment, qui est dosé la plupart du temps, au-delà de 2,5 milliuits par litre, on sait qu'on a déjà des risques de fausses couches qui sont augmentés. Mmh. Et puis, tu as aussi tout ce qui est auto-immunité face à ta propre thyroïde, donc, c'est-à-dire quand tu as une présence d'anticorps antithyroïdiens, même quand la TSH est normale, là aussi, tu as un risque de fausses couches augmenté. Donc, projet de grossesse ou s'il y a eu un arrêt de grossesse, c'est très utile de faire un bilan thyroïdien complet pour vous, tu en es.
On arrive au bout du podcast et avant qu'on passe à un petit jeu, j'ai une faveur à te demander. Moi, j'ai trop envie d'avoir des jumeaux parce que je me dis, une grossesse, deux enfants, c'est le rêve. Du coup, est-ce qu'il y a un secret?
Une pierre deux coups.
Ouais.
Et tu sais qu'on me demande souvent comment faire pour avoir une double ovulation, etc. Alors moi, j'ai pas, de poudre magique pour te faire double ovuler. Ça arrive, plus tu avances en âge, plus ça arrive, parce que ton corps, en fait, va compenser cette fatigue hormonale en libérant deux ovocytes. C'est pour ça
ça fait bien c'est bien d'attendre.
Voilà, tu vois, c'est un argument pour, c'est pour ça qu'en fait, t'as plus de jumeaux chez les femmes qui avancent plus en âge. T'as des médicaments, par exemple, le Clomid, dont on a parlé, c'est un inducteur d'ovulation. Mmh. Donc, t'as des femmes qui peuvent libérer trois ovocytes. Hein, existe. Ouais. Oui, donc faut faire attention quand même. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, tu vois, sur les jumeaux, je vais te raconter, c'est que t'as les faux jumeaux,
ouais.
Donc, qui vont être le fruit de deux ovocytes qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes. Et donc, ce sont deux ovocytes qui ont été expulsés au même moment au cours du même cycle, à partir d'un même pic de LH, donc à 24 heures d'écart maximum. Ça n'existe pas, d'ovuler à J15 puis à J25. Hein. Mmh. C'est pas possible, ils sont libérés à peu près en même temps. Donc là, tu as deux enfants qui n'ont pas forcément le même sexe, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques, qui ne partagent pas le même ADN et qui vont grandir séparément dans l'utérus. Et puis après, donc, tu as les vrais jumeaux. Donc ces jumeaux-là, en fait, ils sont issus d'un ovocyte qui a été fécondé par un spermatozoïde. Et c'est au moment de la division embryonnaire où tout à coup, l'embryon se divise en deux embryons totalement identiques.
Ah.
Et oui, qui partagent le même ADN, des enfants qui auront le même sexe, donc, et puis des caractéristiques physiques semblables. Et qui vont grandir en fonction du terme où l'embryon s'est divisé, vont grandir plus ou moins séparément dans l'utérus. Et donc, quand vraiment cette division intervient trop tard, après le 13e jour qui suit la fécondation, et ben là, tu as des enfants, des jumeaux qui sont tellement liés que ce sont des siamois.
Ah.
C'est rarissime, mais c'est comme ça que...
C'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, exactement.
Ok. Bon, moi, j'aurais appris quelque chose.
Ah ben, c'est passionnant.
Je t'ai préparé un petit quiz. Le but, c'est que tu puisses balayer les idées préconçues sur la fertilité et aussi pour voir si les personnes qui nous écoutent nous ont bien suivi jusque-là. C'est très simple. Il suffit que tu me dises juste vrai ou faux. Mettre son téléphone dans la poche réduit la fertilité.
C'est vrai.
Le stress chronique peut diminuer les chances de concevoir.
Vrai.
Les hommes produisent de nouveaux spermatozoïdes tous les 3 mois environ.
Vrai.
Une femme naît avec un stock d'ovocytes limité qui diminue tout au long de sa vie.
C'est vrai.
L'âge est le facteur le plus déterminant de la fertilité féminine.
C'est vrai.
Prendre un bain chaud régulièrement peut diminuer la qualité du sperme.
Vrai.
Un bon équilibre en vitamines et minéraux peut soutenir la qualité des ovocytes et du sperme.
Vrai.
L'infertilité est toujours liée à un problème chez la femme.
C'est faux.
La consommation régulière d'alcool n'a pas beaucoup d'influence sur la fertilité.
C'est faux.
Une alimentation riche en oméga 3 favorise la fertilité.
C'est vrai.
Bah, merci énormément de nous avoir fait naviguer dans ce sujet complexe, mais vraiment très important. Personnellement, moi qui n'ai pas encore d'enfant, j'ai appris plein de trucs et j'espère pouvoir donner aussi des tips, des conseils aux personnes autour de moi. En tout cas, moi j'ai compris que bah, ça se prépare, mais chaque petit geste pour son corps peut vraiment faire la différence. Pour aller plus loin, tu as même écrit des guides qu'on peut retrouver sur ton site internet. C'est alicemonet.fr, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Est-ce que tu as envie de donner un dernier message aux personnes qui nous écoutent ?
Oui, si on devait garder une seule idée, c'est que l'infertilité, ce n'est pas une fatalité. Il faut investiguer, il faut bosser et chaque petit pas compte et sera important pour la suite.
Merci beaucoup pour tout ça. On mettra ton compte Instagram aussi pour les personnes qui veulent te suivre. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode, ça peut toujours servir. Nous écrire un petit commentaire et puis abonnez-vous pour trouver un prochain épisode de Healthwise. Et puis, je te dis à la prochaine, Alice.
Merci Noémie, merci beaucoup.
En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous avec Sonnel Naturel et à bientôt. Question bonus, c'est quoi les compléments que toi tu prends ?
Ah bah écoute, alors moi depuis que je suis tombée dans cet univers de la micronutrition, j'ai envie de te dire que je prends beaucoup de choses. Quand je pars en vacances, tu vois, je mets plus de flacons de gélules que de fringues dans ma valise. Oui, mon mari fait des têtes un peu bizarres, mais voilà. Donc au quotidien, moi ce que je prends, ça va être de la vitamine D, du magnésium, du collagène, voilà, plus pour l'aspect la peau, des protéines parce que j'ai conscience de ne pas en consommer suffisamment, même si je fais des efforts. Je viens aussi faire des cures de multivitamines régulièrement, des cures de probiotiques régulièrement, et puis parfois des petites cures d'antioxydants aussi en fonction de la saison. Et puis aussi, moi j'ai 36 ans, j'ai eu 4 enfants, et c'est vrai que depuis mon dernier allaitement, je sens, tu vois, que mon cycle est un petit peu moins dynamique, donc systématiquement je bosse sur ma phase lutéale à chaque fois. Je viens soutenir ma progestérone, alors ça peut être de l'alchimie, des plantes, de la crème à la progestérone, mais je sens que j'ai besoin de ce petit coup de pouce maintenant supplémentaire.